Justement, alors Alain, par exemple, tu parlais de la zone. Dans la zone, tu as pu poser une hypothèse forte politique, etc. Enfin, le propos de la zone est très fort. Est-ce que, justement, tu penses que le jeu vidéo est capable de ça, malgré les contraintes de gameplay, il faut plaire à la masse, au grand public
Dans l'absolu, absolument. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Tu peux poser absolument ce que tu veux au départ. Quoi. Moi, j'ai eu d'ailleurs une carte blanche extraordinaire pendant 2 ans. On m'a laissé faire. On m'a dit, bon là, vas-y, Alain, lâche-toi. Quoi. Donc, je me suis lâché. J'ai même été chercher d'autres auteurs de SF comme Stéphane Beauverger, comme Léo Henry, comme Jacques Mukieli, et des scénaristes et réalisateurs. On était 8 en tout à bosser. Et puis, on s'est lâché sur une bible narrative de 1000 pages à 4. Enfin, c'était un bon gros délire. Quoi. Et on a eu totale liberté. Mais ensuite, bon, vous rentrez dans le cône du gameplay, de ce qui est possible dans le gameplay, et puis dans le cône de la production, où le moindre décor, la moindre idée, la moindre petite idée de sous-gameplay va demander un investissement considérable en temps et en énergie et en coût. Donc le problème, c'est un problème industriel, c'est pas du tout un problème de réceptivité du médium ou même des joueurs, c'est juste un problème industriel, c'est que c'est un média, faut le dire, c'est un média hyper fastidieux. Franchement, moi je suis écrivain à la base. J'ai besoin de mon ordi et de mon cerveau pour faire quelque chose. Le jeu vidéo, de tous les médiums que j'ai fait, j'ai fait de la BD, j'ai fait de la série télé, là je suis sur un scénario de long métrage. Le jeu vidéo, c'est supra fastidieux, quoi. C'est supra fastidieux, quoi. Vous faites une petite scène de memory remix, vous remixez la mémoire d'un personnage dans une pièce sur une scène de séparation entre deux persos. Les gars, ils bossent 6 mois dessus. On utilise en nombre de jours, je sais pas combien ça fait, mais c'est colossal. Je parle même pas en termes d'argent, quoi. C'est lourdingue. Voilà, moi je trouve que c'est ça le problème. C'est pas les limites ni en termes d'imaginaire ni le retard qu'aurait l'industrie sur la création de science-fiction. C'est juste que le médium, malgré toute son aura, est un médium encore extrêmement laborieux. Quoi. Voilà, c'est tout.
Jeanne, j'aimerais avoir ton avis sur cette question parce que je sais que pour toi l'élément narratif du jeu vidéo est extrêmement important. Tu travailles donc actuellement sur un RPG qui se passe, qui propose une vision du futur. Voilà.
C'est vrai, oui, c'est une vision et puis c'est clairement un futur aussi très fantasmé. On parlait plutôt au départ de prospective et j'ai pas du tout la prétention que ce soit une prospective, même si effectivement on s'est aussi beaucoup renseigné, on a lu. On s'est énormément documenté, que ce soit des textes scientifiques, et aussi évidemment plein d'auteurs de romans, plein de films, le tout. Enfin, on s'est nourri évidemment d'un milliard de références pour non pas essayer de faire une copie, mais pour essayer vraiment de faire naître un monde qui nous paraissait cohérent. Mais je pense que là-dessus, ça peut rejoindre la démarche que pouvait avoir Alain, etc. Après, c'est vrai que moi j'ai une connaissance depuis, ça fait quand même plus de 14 ans que je travaille dans le jeu vidéo. Vraiment des mécanismes justement de développement, parce que je suis aussi producteur, donc je sais combien de gens il faut, enfin en tout cas dans notre cadre, pour développer un jeu. Et même si on a des petits moyens, parce qu'on est indé et qu'on a des budgets assez limités, c'est vrai que j'intègre même dans l'écriture, peut-être d'une certaine manière je m'auto-censure d'ailleurs, c'est tout à fait possible, mais j'intègre déjà le fait que je vais pas pouvoir montrer tous ces décors là parce que j'aurai pas les moyens. Je vais pas, alors parfois on triche aussi et là ça devient intéressant. C'est que c'est comme d'essayer de donner l'illusion qu'on a beaucoup de moyens, typiquement de faire dans le cinéma, j'imagine que ça existe aussi, de donner des illusions de décors extraordinaires en ayant juste un matte painting par exemple. Ben, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, on va suggérer l'univers, où en fait l'univers est là parce qu'on l'a pensé, oui, on a réfléchi à sa géopolitique, on a réfléchi à son histoire, on a réfléchi à sa religion, on a réfléchi à ce que les gens ont dans la tête, ce qui les motive, leurs moteurs, etc. Mais on ne peut pas tout montrer, et à partir de ce moment-là, ça devient une toile de fond, vraiment comme une mind painting au cinéma, et cette toile de fond, parfois on va en dégager certains éléments parce qu'ils sont importants et qu'ils sont utilisables dans le gameplay, et d'autres finalement vont rester uniquement des ombres dans le décor lointain. Ils vont malgré tout, je pense pour le joueur, être importants parce qu'ils vont donner de la cohérence à l'univers, ce que disait Alain tout à l'heure. Ils vont aider aussi le joueur à partir dans ce monde. En fait, l'idée, c'est quand même malgré tout toujours d'aller chercher les gens et les tirer dans un monde auquel ils ne s'attendent pas spécialement et qu'ils aient un vrai voyage à travers ça et que ce voyage leur apporte quelque chose, soit une expérience purement ludique et fun, soit peut-être de les rendre transformés. Et là, c'est vraiment le top du top. On est très très content quand on y arrive. Mais quoi qu'il en soit, on peut beaucoup tricher. Parce que c'est quand même comme on sert d'images et comme on sert de sons, etc. Typiquement, on a monté nous, une scène comme on n'a vraiment pas du tout de moyens. On a une scène d'intro qui se passe dans un train. On voit juste des gros plans sur les visages des mecs dans cette espèce de wagon qui en fait n'est pas du tout un wagon, c'est juste des espèces d'assemblages de planches qui en fait servent normalement de barricade dans un autre level, avec un bruit de train, et c'est suffisamment cadré, serré, avec de la fumée, etc., pour que, et il n'y a personne qui nous a dit c'est pas un train, tout le monde a très bien compris que les mecs étaient dans un wagon. Donc c'est, alors oui, c'est de la bidouille, et on en a complètement conscience, mais on peut quand même réussir à faire passer quelque chose. Maintenant, c'est vrai que c'est des techniques où on le sait, nous, on est petits, on ne vise pas le triple A, mais on vise par contre une expérience qu'on espère être un vrai voyage et un bon moment pour les joueurs.
Florent, toi qui es un peu la mémoire vivante du jeu vidéo, en tout cas parmi nous, vous deux, est-ce que vous auriez l'un ou l'autre en tête justement des exemples de jeux qui ont essayé de proposer des visions du futur qui sont différentes de ce qu'on connaît?
Alors ça va peut-être pas répondre à ta question, mais j'ai en tête un jeu qui a essayé d'innover, un jeu rétro qui à l'époque, avec les limitations techniques que l'on connaît, c'était en 1982, ne proposait pas un univers aussi complexe que ce que peuvent proposer aujourd'hui les éditeurs et les développeurs, et qui s'appelait Xevious. C'est un shoot'em up relativement rudimentaire, mais qui propose une vision pas forcément narrative en tant que telle, parce qu'il suffit juste d'aller clasher de l'alien, mais qui a été présenté du moins au Japon avec une des premières tentatives de cross-média, c'est-à-dire que l'auteur du jeu, qui s'appelle Masanobu Endo, a, en même temps que le développement du jeu, écrit un bouquin de science-fiction qui fait 600 pages et qui dépeint l'univers du jeu. Et c'est-à-dire que tous les ennemis que l'on peut voir apparaître dans ce jeu ont tous une histoire. Ils ont des pilotes qui ont une histoire aussi. La base que l'on est censé aller détruire à la fin, il y a une histoire qui a été créée, un univers complètement cohérent qui fait partie à part entière de ce jeu, et on peut s'amuser simplement pour le fun, pour le ludisme à la borne d'arcade, comme on peut essayer de s'imprégner de cet univers en lisant le roman et ensuite en allant s'adonner à la borne, et on n'a pas du tout la même appréhension de l'univers. Et même si narrativement parlant le jeu il est très limité, on avait déjà des tentatives en 1980 d'univers développé de science-fiction comme par exemple avec Xevious.
Julien, peut-être oui, avec un micro c'est mieux. Il est allumé.
Non, c'est bon. En fait, sur la question plus précisément, moi, j'avouerais que j'ai jamais vraiment vu dans un jeu vidéo un univers de science-fiction qui soit vraiment original par rapport à ce qu'on trouve déjà dans la littérature ou au cinéma, pour l'instant du moins. Par contre, une chose très intéressante que j'ai remarquée, c'est qu'à une époque, notamment à l'époque des jeux 8 et 16 bits, où les histoires étaient souvent cantonnées au manuel ou en tout cas, il n'y avait pas toute la débauche de cinématiques qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est souvent là que les joueurs, parce qu'ils devaient combler ces zones de vide finalement, se racontaient leurs propres histoires. Et c'est un joueur qui a joué au premier Metroid par exemple, il va être Metroid, il n'y a absolument aucune narration dans le jeu. Tu débarques sur cette planète, tu ne sais pas ce qui s'y passe, tu es tout seul, et en fait les zones d'ombre, c'est l'imagination du joueur qui va les peupler. Et c'est là que ça va le marquer, et qu'il y a plein de théories qui existent sur Metroid, jusqu'à la révélation finale où on découvre qu'en fait tout du long on jouait une femme, ce qui était expliqué nulle part dans le premier. Donc c'était la grande surprise, sous l'armure en fait c'était une femme, waouh. Et en fait du coup c'est l'imagination du joueur étant sollicitée, il va quelque part apporter ses idées, ses théories, son imagination là-dessus, et ça donne des jeux qui finalement ont gagné plus de profondeur que beaucoup des jeux actuels qui sont très illustratifs finalement. Non, voilà.
D'accord. Tu voudrais dire que trop de narration tue la narration?
Pas nécessairement, mais souvent, et parce qu'on est dans du jeu vidéo et que dès qu'on veut faire un truc un petit peu ambitieux, on arrive dans du jeu AAA ou qui coûte horriblement cher, exactement comme disaient mes confrères, on a tendance à vouloir toujours faire des cinématiques qui en mettent plein la vue, avec des explosions partout, des joueurs, si c'est un jeu BioWare, il va y avoir aussi des romances, des machins comme ça. Et le fond, passe toujours un peu à la trappe, le fond, il va être raconté. Mass Effect, par exemple, il y a plein de choses hyper intéressantes dans Mass Effect, mais pour les voir, il faut aller voir l'encyclopédie là, avec tous les petits textes qui vont... Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est super intéressant comme univers. Mais tout ça, c'est jamais mis en avant dans le jeu lui-même. Dans le jeu lui-même, c'est... oh là là, ça pète de partout, les aliens arrivent, vite, vite.
Ouais, donc, c'est quand même un remake de Star Wars.
Donc finalement, en fait, les jeux qui veulent nous présenter des univers, ils le font à la manière d'un bouquin, c'est-à-dire en nous donnant des trucs à lire, effectivement des codex, je pense à beaucoup de jeux où on peut trouver des livres disséminés, si, ça et là, etc. Mais en fait, cet univers, il n'est pas moteur du jeu, il n'est pas vraiment intégré au gameplay, quoi.
En fait, je dirais que quand les univers de science-fiction en jeu vidéo veulent faire des choses innovantes, ils peuvent rarement le faire par les moyens narratifs propres aux jeux vidéo. Ils vont le faire en recourant à du texte et à des choses comme ça. Enfin, du moins, c'est comme ça que je le ressens.
Alors effectivement, dans le cadre pur et dur de la prospective, c'est peut-être possible, même si après, quand je vois le premier BioShock, par exemple, quand je vois Dishonored aujourd'hui, alors bien sûr, ces mondes-là, ils sont inspirés d'autres choses, peut-être, il y a de multiples références. Maintenant, ils ont quand même réussi à proposer une vision originale, à proposer... Alors là, pour le coup, je parle vraiment pas, même plus de l'expérience du jeu. Il s'agit même plus de dire si c'est des bons jeux ou pas. Mais quoi qu'il en soit, il propose un voyage dans les univers qui sont malgré tout, je trouve personnellement, effectivement beaucoup plus originaux. Là, je suis d'accord qu'un Mass Effect, qui pour moi est un remake de Star Wars sans la licence. Mais il y a vraiment, par contre, eu des... Fallout, effectivement, et peut-être pas... Enfin, bon, Fallout date un petit peu, mais le premier Fallout proposait un voyage dans un univers qui était ultra complexe, ultra riche. Alors peut-être qu'effectivement, en termes de prospective, c'était un petit peu bidon, oui, il y a eu un apocalypse, etc. Mais quoi qu'il en soit, c'était la première fois qu'on pouvait passer autant de temps au voyage, découvrir des villes, de rencontrer des gens, parler à des centaines de personnages, avoir vraiment des personnages, faire évoluer soit son personnage, agir de plein de manières différentes sur le monde, dans ce genre d'univers, justement. Et heureusement que c'est, non seulement c'est possible, mais c'est souhaitable, en fait.
Alors justement, on parle de l'expérience de l'univers et effectivement, il peut être très fin, très détaillé. Mais après, quelle est j'aimerais bien qu'on parle aussi de la puissance des idées. Globalement, dans la science-fiction, ce qui fait que pour moi, c'est un genre majeur, c'est qu'il y a des bouquins qui ont permis de faire bouger les. Enfin, je sais pas, on va prendre 1984, Aldous Huxley et autres. Enfin, il y a des bouquins qui ont marqué, qui en plus étaient puissants au niveau des idées, ont amené la société à s'interroger sur des choses. Alors, c'est peut-être un genre particulier, c'était de l'anticipation aussi. Enfin. Et j'ai le sentiment, dans le jeu vidéo, j'ai des souvenirs super forts, mais j'ai par contre pas eu de jeu vidéo avec une vision de l'avenir puissante, critique, ou je sais pas, autant. Mais peut-être que je m'y connais pas. Mais...
Ah, moi, je crois que t'as totalement raison. Le jeu vidéo est d'une pauvreté absolue à ce niveau-là. Quoi. D'ailleurs, la plupart des jeux de science-fiction, c'est des grosses merdes, faut le dire carrément. Moi, j'ai 2-3 références, enfin, de grosses merdes en termes par rapport à la littérature, on va dire. Moi j'ai 2-3 références comme ça qui me viennent en esprit, peut-être des choses un peu fines comme le Trinity de Brian Moriarty, mais qui était un texte, donc qui n'était pas du tout un jeu visuel. Le BioShock, et alors le BioShock il est très intéressant parce que BioShock c'est pas une vision SF, c'est une dégradation d'une vision SF pourrie de Ayn Rand. Et alors BioShock on pourra en parler pendant des heures parce que moi c'est un sujet qui me fascine, Ayn Rand. Et en SF en plus c'est hyper tabou Ayn Rand parce que c'est un peu la sale pute de la SF quoi, donc c'est un peu, c'est bien, c'est, on peut bien taper sur Ayn Rand. Allez vas-y, vas-y cousin. Moi, mon jeu de SF préféré, c'est The Dig, personnellement. The Dig de LucasArts, donc, qui avait été novelisé par Alan Dean Foster. Quoi. Et je suis un fan de Xevious aussi, donc respect. Alors, pourquoi ? Bah, parce que moi, j'ai déjà vu, par exemple, des sessions de création d'univers de jeux vidéo de science-fiction. Et c'est, oh, putain, on va faire une ville, on va faire la ville de Blade Runner. Ok, alors les mecs, ils te font des splash images de Blade Runner et tout. Et tout est pensé visuellement, quoi. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de pensée. Il n'y a que des images. On voyage dans des images. Le jeu vidéo, il est incapable pour l'instant. Et je parle de SF, je ne parle pas de fantasy. Hein. Je ne parle pas d'imaginaire, je ne parle pas de mondes alternatifs. Je ne parle pas de Myst, par exemple. C'est un jeu que j'adore. Quoi. Je ne parle pas de ces choses-là. Je parle vraiment de la SF. Des gros trucs de SF débiles. Quoi. Je veux dire, finalement, à part Deus Ex, qui a eu le premier Deus Ex, qui a eu une vision du cyberpunk intéressante, et qui est encore, c'est un rip-off de Gibson. Hein, je veux dire, la schizophrénie de l'ordinateur, super, de l'IA. Putain, génial, quoi. Ils nous ont refait la même hein, pour le 3 là, hein. C'est pareil, hein, c'est la schizophrénie de l'IA aussi, le pauvre. Voilà. C'est d'une pauvreté absolue, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Donc pourquoi? Bah parce que tout simplement on pense visuellement et on pense pas en termes d'idées. Il n'y a pas d'idées, on va pas dire. Peut-être qu'effectivement avec Remember Me, on... Alors je suis peut-être un peu extrémiste, moi je suis un troll, je suis de mauvaise humeur en plus ce soir. Donc, voilà. Mais quand même, quoi, je veux dire, quand on regarde le jeu vidéo depuis. Enfin, depuis toujours, je veux dire, à part Berserk, putain, il y a quoi vraiment, quoi?
Je vais prendre la défense du jeu vidéo un petit peu.
Vas-y.
Non, en fait, on est un petit peu exigeant vis-à-vis du jeu vidéo. Ça reste un média qui est très jeune. La narrativité telle que nous, on essaie d'en parler aujourd'hui, elle est véritablement aujourd'hui accessible depuis les consoles 32 bits, on va dire la génération PlayStation. C'est quand même quelque chose d'assez récent. On n'a pas encore eu le temps de voir énormément de créations. On a la saga Metal Gear qui a proposé quand même un certain nombre.
C'est une nullité absolue en termes d'idées de scénario.
Ça, c'est
tu ne peux, pas dire que Metal Gear Solid amène quoi que ce soit à la science-fiction où il y a l'idée d'un futur ou d'un présent. Il n'y a rien, c'est des bourrins qui se tapent dessus avec des robots. Quoi.
Bon.
Je vais voler juste au secours de Deus Ex. En l'occurrence, ce que je trouve intéressant dans Deus Ex Human Revolution, c'est qu'il quand même, il propose aux joueurs de s'interroger. Sur ce futur possible, il propose au joueur de décider s'il veut s'augmenter ou s'il veut pas, s'il veut devenir une machine ou pas, et ça c'est intéressant, la capacité justement au travers l'expérience du jeu de poser la question au joueur.
Il y a beaucoup de jeux quand même qui posent des thématiques intéressantes. Je parlais de Metal Gear par exemple, la mémétique. Ça, c'est des sujets qu'on n'avait jamais vus dans le jeu vidéo et qui voilà.
Mais le jeu vidéo, c'est un tout petit monde et c'est quelque chose de très très, comme tu disais pour le coup, je te suis complètement, qui est très très récent.
Oui.
Le problème, c'est que je crois que je vais traduire David si tu me permets de le faire. Je crois que ce qu'il veut dire en fait, c'est pas que les jeux sont pas bons, c'est pas que les jeux sont pas intéressants en tant que tels en termes de gameplay.
Oui.
C'est pas non plus qu'ils ont leur spécificité. Oui, le simple fait qu'on soit dans l'interactivité. Ça rejoint ce que tu disais, Fleur, c'est que oui, effectivement, le jeu propose quelque chose que le livre ne pourra jamais proposer, mis à part peut-être dans les livres où vous êtes le héros, et encore, ça c'est limite, c'est qu'on fait participer le joueur, que le joueur est acteur en fait de cette histoire. Mais c'est pas pour autant que l'histoire est bonne. C'est pas parce que le jeu vidéo a des spécificités qui sont extraordinaires et qui le rendent de toute façon unique, et évidemment on va pas disparaître, c'est un média qui a au contraire tout l'avenir devant lui et qui va probablement changer énormément de choses dans la perception du monde, du futur, etc., et qui, je l'espère, va finir par arriver à proposer des vraies idées innovantes, des mondes innovants, des visions de prospective ou autre, ou même simplement même du contemporain tout proche. Pourquoi est-ce qu'on a très peu de jeux, mis à part Shenmue, ce genre de réflexion-là, qui se passent dans un avenir qui est demain, en fait? Il y en a finalement très très peu. Et tout ça... Oui, pardon.
Je voudrais juste qu'on s'arrête deux secondes pour définir ce dont on parle, parce que là, moi, je ne comprends plus. La science-fiction, c'est quoi? La science-fiction, c'est de montrer ce qui va se passer en 2052, alors que personne ici et aucun auteur qui est là-bas vous prétendra être capable de prédire ce que l'avenir nous réserve. Il me semble que des gens vachement plus intelligents que moi ont défini la science-fiction comme étant une littérature du présent. D'accord? Aldous Huxley parlait de l'eugénisme de son frère, de ce qui se passait en ce moment. D'accord, on sait que ça parle du présent. Bon, que nous dit Metal Gear Solid sur le présent? Rien. Que nous dit le jeu vidéo sur le présent? Rien. Et donc le jeu vidéo et la science-fiction, c'est pas ça. Le jeu vidéo se nourrit d'une imagerie digérée de la science-fiction par le cinéma, à travers de la littérature au cinéma, voire par une déviation par la BD. Il se nourrit de ces images-là, c'est une espèce de pompe à images qui redigère et qui vomit. Mais il n'y a rien derrière, c'est du vent. Donc je dis pas que c'est pas des bons jeux, j'adore Metal Gear Solid, je m'éclate sur Metal Gear Solid.
Alors pourquoi? Pourquoi?
J'aime les jeux où je m'infiltre, c'est tout. Je vais pas lui demander d'être. Pourquoi tu veux que je m'emmerde avec une histoire alors que c'est un jeu d'infiltration, quoi? Je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est que le monde soit bien fait, que j'ai l'impression d'y être, qu'il y ait des jolis sons, qu'il y ait du bon feedback, qu'il y ait machin. Et c'est un narrativiste qui te dit ça.
Là, tu rejoins la politique de Nintendo et de Mario. Finalement, on s'en fout de l'histoire.
Mais c'est pas vrai, parce que l'histoire, elle existe. Étant moi Donkey Kong quand j'étais gamin, mais c'est fou, parce qu'on est d'accord en fait. Moi, je veux dire, moi, les histoires de Donkey Kong, je m'en suis fait 200 000. J'ai fait des comic books sur Donkey Kong, quoi. Sur mon expérience dans Donkey Kong, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Et je me suis rendu compte qu'en termes de. En narrative designer, en game designer, quand tu travailles des codeurs, quand tu travailles des designers, ce qui est super intéressant, c'est non pas d'arriver avec des bibles de 800 km, de 800 pages, c'est d'arriver avec un paragraphe. et de voir ce qui se passe, de voir ce que tu stimules comme idée, comme assets, comme mécanique et compagnie, de travailler des placeholders, et de voir en fonction de la mécanique quel univers ça restitue.
Alors, Alain qui a écrit un truc de 1000 pages.
Mais il est d'accord, d'accord, Alain, ça l'a démonté d'avoir écrit un truc de 1000
pages. Non, mais moi, je suis complètement d'accord avec toi. Mais de toute façon, c'est très simple en fait, hein. On se branle, mais c'est très simple. C'est-à-dire qu'on a un médium où le cœur, c'est le gameplay, c'est les mécaniques de jeu. Donc, il faut partir de là. Et la créativité, elle est là. Si vous n'avez pas un game design qui est extraordinaire et qui porte la narration, vous pouvez faire comme je l'ai fait des bibles narratives de 2000 pages, ça sert à rien. Et moi, ce que j'ai fait, il en reste 5% dans le jeu. Alors, je ne vais pas vous dire que ça n'a pas alimenté les game designers, que ça n'a pas alimenté les graphistes. Oui, ça les a alimentés. Mais au final, la narration n'est pas portée parce qu'on n'a pas les moyens de faire des cinématiques super longues, parce qu'on n'a pas les moyens de faire des dialogues infinis. Donc, on en fait quelques-uns, on les pose à droite et à gauche. Mais quand on voit ce qu'a fait Stéphane Beauverger, ce qu'il a pu faire seulement avec ce qu'on lui a laissé comme espace en termes de dialogue et de cinématique, c'était extrêmement ténu. Et il a tiré d'ailleurs l'optimum de cet espace extrêmement ténu. Mais il y a des contraintes énormes. Donc en fait, il fallait réfléchir dès le départ. Et moi, si je refaisais un jeu aujourd'hui avec toutes les conneries que j'ai fait et tout ce que je n'ai pas compris dans Remember Me, eh ben, je partirais juste avec le game designer dans un coin, tu vois, et je réfléchirais avec lui, exactement comme tu le dis. Tu poses un paragraphe, une idée. Et puis, tu essayes de voir comment en game design, tu peux restituer ça dans une expérience de jeu, quoi, tu vois. Exactement comme on a réfléchi un coup avec David sur la Horde, sur le jeu vidéo de la Horde. Je lui pose l'idée du jeu vidéo de la Horde. En une demi-heure, il m'a fait un truc extraordinaire, honnêtement extraordinaire. Parce que je lui ai dit, voilà, je lui ai dit des trucs tout simples. Je lui ai dit, voilà, je veux un jeu, par exemple, je voudrais un jeu sur la Horde où le fait d'être articulé aux autres, d'être lié avec les autres, est la récompense. Et qu'on ne peut gagner que si on est lié aux autres, à d'autres joueurs qui jouent en ligne avec nous, par exemple. Voilà, on pose ça. Et là, tout de suite, le game designer, il commence à réfléchir comment faire ça. Il me dit tout de suite, attention, c'est ce que disait ton pote, là, Stéphane Burin, c'était vachement intéressant. Il me dit, si tu veux faire un jeu où le fait d'être lié et bien articulé avec les autres te fait gagner, tu peux pas faire un jeu de pilotage aérodynamique avec une horde dont tu places le traceur, le feuilleur, le pilier au bon endroit et que tu manipules ton petit Tetris et tu le fais avancer face au vent. Parce que là, tu n'auras jamais ressenti ce que c'est d'être articulé avec des gens différents de toi et complémentaires de toi, tu vois. Et donc, juste en posant ça, David, tout de suite, il avait compris le truc, il avait pigé que c'était par le game design qu'on allait pouvoir s'en sortir ou pas, d'ailleurs, tu vois. Mais,
tu parles de mécanique de jeu, au final, mais par exemple...
Oui, mais c'est la mécanique de jeu qui va porter la narration et l'expérience, enfin, tu vois...
Oui, mais justement, comment est-ce que tu porterais le message de la Horde, ou je sais pas, David, si tu devais mettre un de tes livres en jeu...
Jamais. C'est un livre, c'est pas un jeu. Alors, on peut faire une adaptation, on s'en fout. Okay. Le jeu vidéo, c'est itératif. Le développement, c'est itératif. Il faut comprendre l'itération. Donc, l'histoire est itérative aussi. D'accord ? L'histoire, elle n'arrive pas comme ça. Mais... Face à la littérature, le jeu vidéo, il ne peut pas gagner. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est faire des jeux vidéo narratifs qui exploitent l'idée que les jeux vidéo soient des romans au rabais ou des faux romans ou des machins. C'est pour ça que les gens pensent que les jeux d'aventure sont pas vraiment des jeux vidéo parce que c'est juste finalement des puzzles avec des mots, quoi. Bon. Le jeu vidéo peut pas gagner, c'est foutu. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on travaille à comprendre ce qui fait la spécificité du jeu vidéo, donc le jeu, le gameplay, le design, quoi.
Et non, je pas fais le que ça, j'arrête
je
sais, pas.
Mais non, mais
prêcher ma paroisse.
Je prêche pour sa paroisse. Et voilà, donc le narrative design, il est itératif. Je dis pas que la narration doit pas exister, mais la narration, elle est immanente, elle est pas transcendante dans le jeu vidéo, quoi. Faire une narration transcendante dans un jeu vidéo, c'est se prendre un mur, quoi. Parce que de cette narration transcendante, même si elle informe, derrière des designers, si elle informe des choses. Évidemment, c'est pas ça qui va faire le jeu. Ce qui va faire le jeu, c'est on travaille avec des symboles, on travaille avec des archétypes, on travaille avec des choses infimes, avec des signes. C'est que de la sémiologie, en fait, c'est que de la sémotique, tout ça.
Donc, David, en fait, tu nous dis que toi, tu penses que le jeu vidéo est pas capable de porter une vision de science-fiction.
T'as renoncé, quoi.
Non, c'est pas ça, mais ce qu'il dit, moi, je suis complètement d'accord
avec lui. Je dis juste que pour l'instant, on n'a pas identifié dans le jeu vidéo ce qui nous permettait de le faire.
Ah, voilà, là, j'aime bien ça.
Ce qu'il faut dire, c'est que si on part pas du game design, on est à côté de la plaque. On peut pas plaquer une narration ou des logiques scénaristiques venant ni de la série télé, ni du cinéma, ni de la littérature sur le jeu vidéo. Le jeu vidéo est un médium qui part du gameplay. Si vous partez pas du gameplay, vous porterez jamais rien.
J'aimerais bien
entendre
Julien.
C'est la seule chose que j'ai compris après 3 ans de développement sur le voilà. Et t'as complètement raison, quoi. Voilà, c'est immanent. On part du gameplay et le gameplay va déployer des choses, une expérience, une narration. Voilà, c'est tout. Mais si vous essayez de plaquer ou d'amener des choses, vous allez faire des cinématiques de 3 km de long. Comme Metal Gear Solid, vous avez 20 minutes de cinématique au départ, les mecs s'éclatent parce que c'est des cinéastes ratés. Et c'est tout. Mais qu'est-ce que ça apporte ? Rien. Enfin, je veux dire, rien par rapport au plaisir d'infiltration.
Mourir d'ennui, les cinématiques de Metal Gear Solid. Moi, j'ai fait me pendre 10 fois, quoi, ce jeu, quoi. Par contre, un truc important, c'est que oui, effectivement, on part du gameplay, mais il est possible, de, au départ, de donner une petite impulsion de contexte au gameplay. C'est-à-dire de dire, OK, bah, on va faire un truc qui se passe sur une planète où il n'y a que des fleurs mauves. Ah, génial. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme design avec des fleurs mauves, machin, tout ça. Et après, on envisage pourquoi les fleurs, elles sont arrivées, machin, est-ce qu'elles parlent, est-ce qu'elles ont une reproduction. Enfin, on ne sait pas, on s'en fout. Mais on part d'un truc, quoi. Mais, donc, il y a cette mini-contextualisation qui peut se faire entre un game designer, un narrative designer, un codeur au début, qui est une espèce d'entente, une espèce de connivence pour savoir ce qu'on a envie de faire. Et voilà, quoi. Donc, bon, tout est à faire, quoi.
Julien.
Mais, ouais, je pense que c'est une, aussi une erreur, du coup, que font beaucoup d'éditeurs de jeux vidéo à l'heure actuelle, qui est de dire quand... genre sur ce jeu, ah là là, l'histoire a été écrite par tel scénariste à la mode ou tel romancier à succès et tout. Ce qu'on a vu par exemple récemment avec le Syndicate, le nouveau Syndicate d'Electronic Arts, ils sont allés chercher Richard Morgan, qui est un auteur de cyberpunk, j'appelle ça du cyberpunk, c'est pas vraiment du cyberpunk, mais ça ressemble, qui écrit des bouquins qui sont pas les plus intelligents du monde, mais qui sont très corrects. Et l'histoire du jeu, elle